La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, son nom est partout à la une de la presse.
Oui, et ce n'est pas François Hollande, n'en déplaise au chef de l'État, lequel a annoncé hier que la France avait mené son premier raid en territoire syrien. Celui vers qui tous les regards se tournent ce matin, c'est Vladimir Poutine. Et pourquoi ? Parce qu'avant de s'entretenir avec son homologue américain, non seulement le chef du Kremlin fera son retour devant l'Assemblée Générale des Nations Unies après 10 ans d'absence, mais aussi parce qu'il doit appeler de ses voeux ce lundi la création d'une coalition élargie en Syrie pour lutter contre les terroristes, tout en soutenant le régime du président Bachar el-Assad. Interrogé récemment sur CBS, le président russe a été, on ne peut plus clair, interrogé sur le fait de savoir si la montée en puissance de Moscou visait à sauver Bachar el-Assad. Vladimir Poutine a répondu « Vous avez raison », avant d'ajouter « Il n'y a pas d'autre solution à la crise syrienne que de renforcer les structures gouvernementales et de les aider dans le combat contre le terrorisme ». Une opinion qui gagne d'ailleurs du terrain, précise le Temps de Genève, puisqu'Angela Merkel, par exemple, se dit prête désormais à parler à Bachar el-Assad. Et pourquoi ? Sans doute en raison des répercussions de la crise migratoire en Europe, mais aussi parce qu'une nouvelle dynamique s'est instaurée avec l'accord sur le nucléaire iranien, et enfin parce que Daesh fait l'unanimité contre lui. Sauf que la désignation d'un ennemi commun ne fait pas encore un plan de paix. Poutine et les autres peuvent-ils s'entendre pour négocier avec Bachar el-Assad une stratégie contre l'État islamique ? Et Moscou a-t-il un plan B pour ensuite maintenir le régime tout en lâchant son allié ? En clair, d'abord se débarrasser de Daesh et ensuite de Bachar el-Assad, quoi qu'il en soit. Une chose est sûre, l'intervention militaire de la Russie en Syrie l'a transformé en partenaire incontournable à la table des négociations, ce que critique d'ailleurs le quotidien de centre-gauche, La Repubblica. La Russie, dit-il, mise sur une Europe politiquement effrayée et déchirée, mais aussi sur l'incohérence stratégique de l'Amérique d'Obama. Or, si Poutine réussit à stabiliser les États ébranlés par l'aventurisme américain et les hésitations d'Obama, il espère probablement démontrer à terme qu'il est le véritable ami de l'Europe, ou dit autrement, selon le journal de Rome, au-delà de Damas, l'objectif de Poutine serait d'atteindre directement Berlin, Paris et Rome. D'où cet édito signé du Washington Post. Attention de ne pas céder à la tentation du modèle hérité de la guerre froide où chacun des grands acteurs de ce monde jouerait à une espèce de partie géante de risque. Ne perdez pas de vue, écrit l'éditorialiste, qu'en intervenant militairement en Syrie, Vladimir Poutine ne cherche en réalité rien d'autre que de se maintenir au pouvoir chez lui depuis 10 ans. Poutine pouvait se vanter d'offrir à son peuple une stabilité, une hausse de la croissance économique et des retraites payées en temps et en heure. Or, avec la chute des prix du pétrole et les sanctions économiques qui pèsent sur son pays, cet argument ne fonctionne plus aujourd'hui. Les Russes sont à présent plus pauvres qu'ils ne l'étaient hier et les choses semblent pouvoir aller encore pire. Et en d'autres termes, écrit le journal de Washington, le salut de Poutine ne passerait plus désormais donc que par la place recouvrée de la Russie sur la scène internationale.
Et puis, Thomas, toujours dans la presse, une enquête étonnante sur une autre guerre méconnue celle-ci, la guerre du maïs.
Oui, tout commence un jour de septembre 2012. Deux Chinois en partance pour Pékin depuis Chicago sont alors pris la main dans le sac, dans leur valise. Des agents du FBI découvrent 300 minuscules enveloppes de papier Kraft contenant des grains de maïs. Ce sera là le point de départ d'une longue traque du FBI racontée à la manière d'un polar dans cette enquête intitulée « La guerre du maïs » donc est publiée dans le magazine américain New Republic cité par le Courrier International. À coup de course-poursuite, deux micros placés sous des voitures, de téléphones mis sur écoute, le FBI découvre un petit groupe de voleurs d'épis. L'enquête aboutit finalement à l'inculpation en décembre 2013 de deux Chinois travaillant dans le domaine des accusé de tentative de vol de secrets industriels. Alors cela peut sembler une grosse affaire d'espionnage post 11 septembre, mais le gouvernement américain y voit surtout un problème beaucoup plus vaste, écrit le journaliste. Ce vol, estime-t-il, résulte d'un fait indéniable et dangereux. Malgré l'étendue de son territoire, la Chine ne peut tout bonnement pas produire suffisamment de nourriture. Les pénuries d'eau et le manque de terres arables contraignent le gouvernement chinois à acheter 2 à 5 millions de tonnes métriques de maïs américain par an, soit environ 94% de la totalité du maïs importé chaque année en Chine. Alors, rappelant comment tout au long du XXe siècle, les États-Unis ont fait de la production de maïs un enjeu commercial mondial, le journaliste montre que cette supériorité alimentaire est devenue une redoutable arme de domination, notamment sur les pays communistes. Dès les années 60, le ministère américain de l'Agriculture a compris que si les États-Unis utilisaient leur puissance pour répondre à la demande et rendre des pays tributaires des produits américains, alors ils vaincraient les communistes en les rendant dépendants d'eux pour se nourrir, écrit l'enquête. Aujourd'hui, le défi scientifique pour la création de maïs génétiquement modifié et de graines hybrides ultra performantes et donc l'une des grandes priorités des grands semenciers américains.